Nous allons donc ce soir poursuivre cette réflexion sur la vie spirituelle et présenter la vie spirituelle comme un voyage. Comme un voyage dont l'aliment intérieur, le moteur, le vecteur est notre désir de Dieu. Et donc on va employer le mot de pèlerin, le pèlerin se met en marche, puis un peu plus loin vous voyez le pèlerinage intérieur. Encore plus loin, vous voyez la question de la liberté aussi. La question de faut-il pour ce voyage un guide spirituel? Et enfin, une question importante qui est celle d'entretenir le désir. Et c'est pour cela que le petit point de suggestion pratique que j'ai mis aujourd'hui concerne l'entretien du désir, précisément, à travers une des façons de prier qui est la prière du cœur. Nous verrons cela tout à l'heure. Donc on prend notre réflexion sur le pèlerin qui se met en marche et la différence entre une attitude dont on pourrait dire qui est celle de l'homme psychique et l'attitude de l'homme spirituel, c'est que l'homme psychique va chercher fiévreusement à aller mieux par toutes sortes de moyens, à être heureux, alors que l'homme spirituel va viser à se transformer, à être transformé par Dieu. Le premier va exiger des solutions à ses problèmes, il veut se prémunir contre toute souffrance, il fait des sessions de guérison intérieure éventuellement pour arriver à guérir ses blessures les plus profondes, mais le second, lui, se forge et s'affine à travers les épreuves inévitables que comporte l'existence. Le premier est toujours insatisfait, au fond. Ses états d'âme sont précaires, jamais assurés, tandis que le second laisse sur la rive le petit moi geignard qui s'agite et revendique, et il cherche à s'avancer au large, à la grâce du vent. Donc quand un pèlerin spirituel se met en marche, c'est pour un long voyage. Et le pèlerinage dure toute la vie, il ne s'arrête jamais. Et quand il se met en marche, il va vers sa jeunesse. En fait, il laisse la mort derrière lui, et tout ce qui est futile derrière lui, tout ce qui est factice et périssable derrière lui. Il abandonne ses masques et sa carapace. Il quitte tout ce qui le retient au passé et il va essayer de prendre congé du vieil homme pour aller vers la saison nouvelle. C'est sa naissance véritable, ses premiers pas vers l'infini divin. Une mystique française du XVIIIe siècle qui s'appelle Madame Guyon, vous n'aurez qu'à regarder sa notice, c'est assez intéressant sur Internet, disait ceci: il n'y a plus d'hiver pour une âme arrivée en Dieu. Elle va vers sa jeunesse, elle va vers le printemps, elle va vers la lumière. Semblable au vin nouveau, l'homme intérieur ne peut se contenter des systèmes et des schémas de vie auxquels la majorité des hommes acquiescent sans se poser de questions. Lui, il s'est mis en route, voilà. Il s'est levé et s'est mis en route. Et les réponses toutes faites, les explications du monde ne le satisfont pas, il désire vraiment frayer son chemin particulier, son chemin à lui. Il a soif de mystère, il a soif d'immensité. Et déjà, il s'est éveillé à sa dimension transcendante, à la souveraineté de l'esprit. Donc, sans regret, il laisse les morts ensevelir les morts. Toutes ses habitudes sclérosantes, ses rêves stériles, ses chagrins de plomb. Et vous voyez comme c'est difficile parce que constamment, on a des blessures, des impacts au cours de notre vie qui nous font replonger dedans. Et donc, il est vrai que constamment, il faut essayer de repartir et de reprendre le voyage. Mais donc, on se hâte sur le chemin de la vie et déjà, on en savoure les prémices dans notre cœur. Ce départ qui est sans cesse refait au fond, ce départ est nécessairement une coupure, l'abandon de ce qu'on croyait savoir, de ce qu'on croyait aimer, de ce qu'on voulait garder, pour aussi nous laisser conduire sur les chemins que Dieu, par lesquels Dieu nous fait passer, et qui sont inconnus, nouveaux pour nous, qui ne sont pas ceux que nous aurions ni choisis ni préférés. Mais voilà, il va essayer d'entrer dans un monde nouveau où il croisera très peu de voyageurs. Très peu de voyageurs. Vous savez bien ce sentiment, quelquefois, quand nous avons une véritable expérience spirituelle, ce sentiment qui nous prend lorsque nous nous trouvons au milieu d'autres personnes, où on a le sentiment qu'on n'arrive pas à s'intégrer vraiment à leur façon de penser, à leur façon de parler, à leur point d'intérêt. On en a d'autres, au fond. Alors ce pèlerinage, deuxième point, ce pèlerinage est un pèlerinage intérieur. C'est un pèlerinage intérieur et on va se tourner vers cet espace très vaste, préservé, où réside le royaume. Alors c'est intéressant de regarder la façon dont on a traduit dans les évangiles la phrase prononcée par Jésus, rapportée par l'évangéliste Luc, traduite tantôt le royaume est en vous, tantôt le royaume est à l'intérieur de vous, tantôt le royaume est parmi vous, au milieu de vous. Il y a une traduction qui insiste plus sur l'intériorité, le royaume est en vous, le royaume est à l'intérieur de vous, et une traduction qui insiste plus sur une sorte de perspective de phénomène sociologique ou de mouvement politique en marche. Jésus dit cette phrase lorsqu'on lui pose la question « Quand viendrait le royaume ?» Et Jésus répond « La venue du royaume ne se laisse pas observer, on ne dira pas « Le voici, il est là, car le royaume de Dieu est en vous, à l'intérieur de vous. » Et le « entos humon » en grec, « en vous », effectivement, on peut le traduire aussi « au milieu de vous », donc en forçant un peu le trait « parmi vous ». Donc on peut à ce moment-là parler de la communauté chrétienne aussi comme lieu du royaume. Alors qu'il peut sembler plus idoine de considérer que Jésus ait voulu parler du royaume intérieur, à l'intérieur de vous. Donc il y a un petit risque que l'intériorité cherche à triompher que l'extériorité cherche à triompher de l'intériorité, du moins à la faire oublier. Et peut-être qu'une des raisons est celle-ci, c'est qu'un être spirituel est libre. Il n'exerce aucun pouvoir. Il répugne à devenir courtisan. Et il n'est pas asservi, il n'est pas récupéré. Et ça, c'est une véritable bonne chose. C'est pourquoi une personne qui est ainsi paraît dangereuse pour l'ordre du monde, pour les institutions terrestres. Donc mieux vaut l'expédier ailleurs pour éviter qu'elle ne contamine les autres par sa force intérieure, par sa liberté intransigeante. Peut-être vous connaissez ce mot de Socrate qui, condamné à mort à l'âge de 71 ans, dit tranquillement « Ils peuvent me tuer, ils ne pourront détruire mon âme ». Donc la vie intérieure nous éveille à notre liberté. Donc on comprend qu'il y a assez peu de personnes qui encouragent cette vie intérieure. Ou bien que dès qu'elle apparaît, on cherche à la cadrer dans une forme religieuse. Et on comprend aussi que dans toute religion qui tient à s'établir ou à se développer, on insiste bien davantage sur le culte et sur la doctrine que sur l'intériorité. Parce que l'intériorité, quelque part, prend déjà l'allure d'un chemin buissonnier. Il y a vraiment une différence entre la pratique religieuse et la démarche spirituelle. La première s'insère dans une communauté, la pratique religieuse, tandis que la seconde, la démarche spirituelle, est singulière, et elle est solitaire. Alors il est vrai que la religion a pour rôle d'inviter et d'éveiller à la vie intérieure, mais Par ses attaches terrestres, elle se contente souvent de la pratique extérieure, de la croyance et de la dévotion de ses fidèles. Et là encore, celui qui a soif ou qui a la nostalgie d'une vie supérieure se trouve orphelin. Il ne reçoit guère de nourriture provenant des ministres du culte. Ça a toujours été vrai et c'est toujours vrai aujourd'hui. Et il s'est détourné depuis longtemps des plats réchauffés servis par les tenants de la psychologie, donc il reste un peu sur sa faim. Creusons un peu cette question de l'éveil, de la liberté par la démarche spirituelle, par la vie intérieure. Un homme qui prend conscience de sa finitude, soit à cause d'un accident par exemple, ou à cause d'une maladie, ou bien parce qu'il se met à y réfléchir profondément, cette personne n'est pas forcément conduite à une recherche spirituelle ou à une recherche philosophique. Cette personne peut être également prise de désespoir. Elle peut sombrer dans l'absurde. Ou bien elle peut tenter d'oublier en se divertissant, en profitant des plaisirs de la vie. Donc, l'apparition de cette liberté intérieure nécessite, au fond, d'accueillir cette double injonction. La première, c'est ce que la philosophie antique avait appelé le memento mori, souviens-toi que tu vas mourir, qu'on retrouve dans le mercredi des cendres, souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière. Bon, la considération de notre finitude, de notre mort prochaine. La seconde, qui en est indissociable, rappelle à l'homme mortel sa grandeur, son visage d'éternité. Et saint Bernard de Clairvaux le formule avec force dans un de ses sermons, « Souviens-toi de ta noblesse et sois honteux d'une telle défection, n'ignore pas ta beauté pour être davantage confondu par ta laideur. » Donc saint Bernard fait allusion à l'homme créé à l'image de Dieu, mais qui par ignorance, par indolence, par tiédeur, se trouve encore bien éloigné de la ressemblance avec son Créateur. Et le fait de ne pas se résigner à sa condition mortelle peut conduire l'homme à rechercher ce qui, en lui, est de l'ordre impérissable, la parcelle de divin qu'il aura à cœur de manifester durant son existence. Donc d'un côté, la misère de l'homme, son aspect mortel, de l'autre côté, la grandeur de l'homme, sa vocation à l'éternité, sur quoi Pascal a longuement médité. En quoi consiste sa grandeur? Est-ce la pensée que n'ont pas les autres êtres vivants? C'est ce que dira Descartes, « Je pense donc je suis ». Est-ce le langage articulé, comme vont nous dire un certain nombre de scientifiques? L'aptitude à se servir d'instruments pour fabriquer, inventer? Le goût de dominer la nature, d'exploiter les autres règnes du créé? Ou encore la conscience de sa mort, l'apparition des premières tombes, ou des rites et des croyances qui s'y attachent? En fait, la vraie grandeur de l'homme, ce n'est pas cela, la vraie grandeur de l'homme est spirituelle. Elle repose en son esprit qui le relie à Dieu. Et cette imminente dignité propre à l'être humain n'entraîne aucun droit, mais elle le rend totalement responsable. Elle le rend totalement responsable. Elle l'invite non pas à exercer une suprématie avec mépris, mais au contraire à avoir des égards pour tous ceux qui ne reçoivent pas les lumières de l'Esprit-Saint. Pour faire ce voyage, puisque nous parlons de la vie spirituelle comme d'un voyage intérieur, pour faire ce voyage, faut-il un guide spirituel? Bonne question. Faut-il un accompagnateur, un directeur spirituel, comme on disait autrefois, n'est-ce pas? La connaissance de soi nécessite-t-elle l'intervention d'une personne extérieure? Elle demande d'aller vers soi, ce soi inconnu qui n'a rien à voir avec le personnage social, avec l'homme ondoyant et divers qui s'agite sur terre. Il y en a des hommes et des femmes ondoyants, n'est-ce pas, qui virevoltant. Là, c'est une rencontre avec notre être profond et non pas une invitation à nous empresser vers l'extérieur. Mais l'homme ordinaire ne perçoit pas la contradiction qu'il y a entre le désir d'intériorité et la démarche qui le précipite au dehors. Donc, ayant peur du vide, ayant peur de l'inconnu, Voyons aussi qu'il ne s'agit pas d'aller à l'extérieur. Il va chercher un maître, un guide, alors qu'il n'a pas encore fait connaissance avec lui-même. Donc il court-circuite le lent processus intérieur, au lieu de rester tout simplement chez lui, en silence, afin que s'opère la décantation. Plus on agite les eaux mêlées inférieures, plus on est dans le trouble et la fébrilité. Il convient au contraire de se poser et de laisser reposer son âme plutôt que d'aller lui chercher un maître. Il y a des gens comme ça qui sont sans cesse à la recherche de quelqu'un qui va pouvoir les conseiller, qui vont de Pierre en Paul et en Jacques et qui n'avancent pas pour autant, qui finissent par se casser la figure. Il est bon de s'accorder ce recueillement indispensable afin d'être touché par la lumière de l'Esprit-Saint. Alors c'est vrai que les diverses religions proposent à leurs fidèles des directeurs de conscience, des conseillers spirituels, des maîtres aptes à enseigner, à donner des repères, avec le risque évidemment que certains d'entre eux puissent exercer leur pouvoir sur les âmes au lieu de veiller sur elles. Donc, manipulation spirituelle. Et croyez-moi, ça existe plus qu'on ne pense, y compris par des religieux, par des prédicateurs de retraite, par des gens qui se prétendent ayant reçu des lumières spécifiques d'en haut, etc. Or, dans l'aventure spirituelle, l'homme conscient est à la fois le pilote, le passager et le bateau. Il est à la fois le pilote, le passager et le bateau. Nul autre humain ne peut diriger l'embarcation à sa place. C'est très important de comprendre ça. Tout au plus, on peut lui fournir quelques vivres, lui indiquer les vents et les courants, voire même des obstacles graves qu'il peut rencontrer, mais n'empêche, c'est lui qui navigue. C'est lui qui aussi qui a le mal de mer d'ailleurs. Et c'est lui qui tient le gouvernail sous le regard de Dieu. Et c'est ça peut-être qui est exaltant et redoutable aussi dans la vie spirituelle, c'est qu'elle fait découvrir à l'homme son immense liberté. Et plus le pèlerin vit selon l'Esprit et selon l'Esprit Saint, plus sa liberté s'accroît. Seulement, voilà, c'est assez inconfortable. N'être inféodé à personne, c'est être responsable de tout. Être totalement libre, c'est se retrouver absolument seul. Celui qui désire avancer sur la voie intérieure n'a pas besoin de se tourner vers un maître comme on le fait à croire aujourd'hui en Occident, oublieux de nos propres richesses, alors que nous voulons copier le modèle spirituel de l'Orient, suivant lequel les disciples dépendent d'un gourou, d'un swami, d'un lama. Selon la tradition occidentale, où convergent à la fois la Grèce, le judaïsme et aussi la civilisation latine, la vie spirituelle s'apparente à un comportement. Pardon, la précédence est donnée à la liberté de la personne humaine. Et la démarche philosophique ou la démarche spirituelle s'apparente plus à un compagnonnage, à une relation d'amitié entre personnes partageant une même quête, et non pas à un lien d'obéissance ou de dépendance entre quelqu'un qui sait et les autres qui ont tout à apprendre de lui. Ça, c'est très, très important. Or, aujourd'hui, il ne manque pas de lieux dits spirituels où, au contraire, on va vous faire passer par les fourches caudines d'un chemin parfaitement balisé auquel il va falloir vous plier. La vision occidentale de l'être humain, c'est celle d'une personne unique, irremplaçable, douée de libre arbitre, de mémoire, de volonté, capable d'exercer son propre jugement. Socrate, loin de se poser en maître, se déclare accoucheur d'âme et converse librement avec les gens qu'il rencontre autant qu'avec ses amis. Jésus chemine sur les routes en compagnie d'hommes et de femmes, les interroge, les fait réfléchir, mais il ne va pas les embrigader. Il va désigner ses apôtres par le beau qualificatif d'amis. Mais Jésus ne va pas s'amuser à formater les gens. Donc ce qui est demandé à quiconque entreprend le voyage spirituel, ce n'est pas de se rendre obéissant et fidèle envers un maître extérieur, mais d'être en toutes circonstances fidèle à ce qu'il est en lui-même. Fidèle à ce qui en lui-même demeure supérieur, à savoir la lumière vivante de l'Esprit. Être à l'écoute de la voix de l'Esprit-Saint en nous. Donc il faut se méfier de toute relation qui, sous prétexte d'enseignement spirituel, se transforme en assujettissement, plus ou moins béat, et en idolâtrie. On fait comme ça de l'idolâtrie des fondateurs. Ça existe beaucoup. C'est dans ces domaines que les manipulations et les enrôlements sectaires s'exercent le plus aisément, avec le consentement des disciples d'ailleurs, qui acceptent tout, pourvu que quelqu'un conduise leur embarcation à leur place et les débarrasse de tout ce qui touche à leur liberté. Avoir un avis personnel, risquer, juger, décider par soi-même, agir seul, conserver sa pensée et son attitude, même si le plus grand nombre se montre en désaccord. Inventer, créer. La terrible responsabilité de la solitude dont parle Kierkegaard, c'est le poids dont beaucoup veulent se décharger. Et il y a certains individus rusés, avides de pouvoir et d'argent, qui acceptent le marché moyennant finances et cultes rendus à la personne. Alors pour ce voyage spirituel, le plus important c'est d'entretenir le désir. Le père Finet, fondateur des foyers de charité, avait toujours ce mot dans ses retraites, « Ami, n'arrête pas ton désir. » « Ami, n'arrête pas ton désir. » Et le pèlerin spirituel, c'est un homme qui marche. Mais si en lui ne réside aucune ferveur, s'il a jugulé toute émotion, tout sentiment, sa marche risque d'être qu'une mécanique, une coquille vide et desséchée. Donc on ne saurait trop insister dans ces temps prudents et frileux qui sont les nôtres, on saurait trop insister sur l'importance que revêt le désir dans une démarche spirituelle. Le désir, c'est le feu de la vie, c'est l'énergie de la quête. Alors il ne faut pas confondre le désir avec la convoitise, ni avec l'avidité. Le vrai désir fait sortir hors de soi. Il permet toutes les aventures de la pensée, de la création artistique, et nourrit toutes les relations véritables. Mais c'est important, cet aspect des choses. Nous sentons bien qu'à certains moments, par exemple, des épreuves que nous vivons, quelque part, viennent casser en nous le ressort du désir, viennent tuer en nous l'appétit, le désir d'aller plus loin dans notre quête spirituelle. Et il y a comme une sorte de mort qui s'installe. Eh bien, il faut pouvoir peut-être accueillir la grâce des sacrements, sacrement de réconciliation, une prière des frères, que sais-je, pour repartir et raviver ce désir, demander à l'Esprit-Saint de régénérer ce désir en nous. Car le désir du cœur, c'est la foi qui déplace les montagnes et fait chanter au milieu de la fournaise. Sa puissance est analogue à celle de la passion amoureuse, comme l'énonce au 7e siècle Saint Jean Climaque, qui, longtemps ermite, devint le supérieur du monastère du Sinaï. Et il disait ceci, « Bienheureux celui qui a obtenu un désir de Dieu, semblable à celui d'un amant passionné pour celle qu'il aime. » Bienheureux celui qui a obtenu le désir de Dieu, semblable à celui d'un amant passionné pour celle qu'il aime. Sans la flamme du cœur, sans éclat des émotions et la brûlure des sentiments, la vie spirituelle risque de s'intellectualiser, de devenir dure et arrogante. Elle se réduit à des techniques ou à des formules apprises. Elle est une posture, et alors elle devient une imposture. Il faut avoir de grands, de hauts, de généreux désirs, comme le rappelle très souvent à ses sœurs Thérèse d'Avila. Vivant au temps des grandes découvertes, la mystique espagnole parle de l'exploration des terres intérieures comme d'un voyage tout aussi passionnant et empli de merveilles. Puissance du désir. Ici encore, un autre auteur anonyme, ou à moins que ce soit Julien de Norwich, l'auteur du Nuage d'inconnaissance, se montre un guide subtil. Dit ceci, quiconque a vrai désir d'être au ciel, il y est alors à l'instant même spirituellement. Quiconque a vrai désir d'être au ciel, il y est alors à l'instant même spirituellement. Car c'est par les désirs et non pas par les pas de la marche que la grande route est la plus prompte du ciel est courue. C'est par les désirs et non pas par les pas de la marche que la grande route du ciel est courue. Le désir fervent est d'ordre ascensionnel, tandis que la marche règle notre conduite en ce monde. Donc le pèlerin intérieur est un homme de désir. Il s'agit bien pour le chercheur de Dieu de conjuguer l'ardeur du désir et la lenteur du pas, la ferveur et la longue patience, de ne pas brûler les étapes et de toujours couver son feu. Voilà pourquoi l'escargot, plus que le guépard, offre une juste image du pèlerin spirituel. Ces lignes sont tirées d'un livre qui s'appelle « Le bréviaire du colimaçon ». Et donc, voilà, l'escargot est plus que le guépard, la juste image du pèlerin spirituel. Et tant qu'à rester avec le règne animal, si beau, si sensible, voici ce que confie en septembre 1896 Thérèse de l'Enfant Jésus, au sujet de son désir céleste, elle est un an avant sa mort. « Moi, je me considère comme un faible petit oiseau couvert seulement d'un léger duvet. Je ne suis pas un aigle. J'en ai simplement les yeux et le cœur. Car malgré ma petitesse extrême, j'ose fixer le soleil divin, le soleil de l'amour, et mon cœur sent en lui toutes les aspirations de l'aigle. » Donc le pèlerin spirituel, en conclusion, ne se préoccupe pas d'être au goût du jour, mais au goût de Dieu. Il ne se soucie pas de vivre dans l'air du temps, mais dans le souffle de l'esprit. Et tandis qu'il avance courageusement sur le chemin, la petite phrase de saint François d'Assise résonne dans son cœur, « Nous ne sommes en réalité que ce que nous sommes au regard de Dieu. » La soif est première, elle réveille la conscience endormie, elle donne l'élan. Ce ne sont ni le raisonnement ni l'argumentation qui se révèlent décisifs dans une démarche spirituelle. Sinon, il s'agit d'un endoctrinement. Mais c'est bien le désir ardent et irrépressible de découvrir une contrée que le mal ni la mort n'atteignent. Par exemple, on peut s'intéresser à Jésus d'un point de vue historique, documenté et objectif. D'un point de vue intellectuel, exégétique, distancié. D'un point de vue théologique, savant et dogmatique. Mais il est bien plus dynamique et authentique de se demander « Qu'est-ce qui, en moi, a soif de lui ? Qu'est-ce qui me fait partir à sa rencontre ou sur ses traces ?»